Hier soir, j'ai vu Nicoletta dans une émission de télé, on revisionnait une ancienne émission, elle chantait une chanson avec un micro, et j'ai m'interdit, ah, vous n'étiez pas en playback, parce que vous aviez le micro. Bon, alors ici, on n'est pas en playback, on est en direct. Alors le mieux, c'était de vivre, ce serait de vivre la mort du catalogage en direct, mais ça ne sera pas tout à fait ça. On a connu, un titre de libretto, la mort du Conseil supérieur des bibliothèques en direct, hein, au moins de la BF. Hein. Il a été annoncé, c'était une séance extraordinaire, il est pas bien titré la mort du Conseil supérieur des bibliothèques en direct. Mais on est là pour célébrer la vie plutôt que la mort, donc on va y aller. Alors, donc je suis Dominique Lahari, directeur de la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Je me suis intéressé aux questions de normalisation ou d'informatique depuis très longtemps, notamment à l'Association des bibliothécaires français. Il fut une époque où, avec Françoise Bourdon, de la BNF ici présente, nous étions dans le même groupe de travail, disons, nous avons essayé de faire avancer ces questions, de favoriser l'information des collègues sur ces choses qui sont importantes. Alors, évidemment, nous vivons une époque qui n'est pas du tout ordinaire. Et il y a au menu la fin du catalogage. Alors maintenant, dans les mails, on met trois points de suspension, trois points d'interrogation. Ça me choque au début, puis je me suis dit, Céline le faisait déjà, n'est-ce pas? Bon. Donc voilà, on y va. Bon, parce que la fin, c'est pas évident, mais c'est un thème qui est indispensable. Je vous préviens tout de suite, mon intervention est tout à fait partisane, car je considère que c'est une sorte de militantisme au sein de la profession que de défendre un certain point de vue. Hein. Voilà. Donc il n'est pas fait pour faire le consensus, etc., le compromis. C'est tout à fait quelque chose d'engagé. Alors, ma petite introduction, c'est, je ne l'ai pas mis là, mais j'aurais pu le mettre, on met un cœur, on dit, j'avoue, j'aime le catalogage. Dans ma vie professionnelle, j'ai fait du catalogage, et j'ai aimé ça, hein, j'ai aimé cataloguer. J'ai commencé à cataloguer à la machine à écrire, pas à la main, hein, mais à la machine à écrire, et puis ensuite en informatique, etc. J'y ai trouvé plaisir, intérêt, c'est un truc que j'ai... Il y a des collègues qui n'aiment pas ça du tout, tant mieux, hein. Il y en a d'autres qui aiment, et je comprends parce que c'est mon cas. Mais la question n'est pas là, j'aime ou j'aime pas, de même qu'en politique documentaire, la question n'est pas j'aime ou j'aime pas, n'est-ce pas? Nous avons une démarche professionnelle, et donc, est-ce que c'est vraiment raisonnable au 21e siècle de continuer à se cataloguer? Voilà, c'est mon propos. Alors, voici un plan... Voilà. Je reviens si vous voulez, mais le plan est un peu à surprise, donc ça n'est pas tout à fait signifiant. Mais on va le voir. Alors, je commence par une séquence nostalgie. Pourquoi? Parce que je fais des études d'histoire avant, ça m'a peut-être déformé, mais il me semble que beaucoup de choses s'expliquent par l'histoire. Et on est toujours habité par une histoire. Et même si on est de la dernière pluie, en quelque sorte, si on arrive dans la profession cette année, on est déjà marqué par l'histoire de la profession. Et on est entouré par, entouré par une pesanteur qui vient du passé. Et qu'on a à s'approprier et à dépasser. Alors, le catalogage ne s'explique pas comme s'il était né en 2005. Hein. Il est bien plus ancien que ça dans le milieu des bibliothèques, et notamment des bibliothèques françaises. Je m'excuse auprès des collègues d'autres pays, fussent-ils francophones, parfois je parlerai de spécificités qui sont françaises dans cette histoire. Hein. Je fais là une histoire nationale. Alors, je considère que on a l'impression, on peut, tout se passe comme si on avait connu un âge d'or, qu'on l'ait connu personnellement ou bien qu'on soit habité par cet âge d'or qui pèse encore. Je l'ai connu personnellement, donc je parle d'expérience. Cet âge d'or, c'était ce qu'on appelle la gestion manuelle. À l'époque, on ne pensait pas du tout appeler ça la gestion manuelle. Hein. C'était la gestion de la bibliothèque. Ça s'est appelé manuel parce qu'après, il y en a eu une autre gestion. Hein. De même qu'on ne parlait pas des livres en papier ou des documents en papier, parce que tout était en papier, donc, etc. Quand les choses commencent à avoir un nom, un adjectif, ça veut dire que voilà, elles sont marquées, elles sont du passé. Donc c'était la gestion manuelle. Et donc, comme tout était en gestion manuelle, chaque bibliothèque créait son information secondaire. Alors en technique documentaire, moi j'ai peu appris, j'ai appris, c'est un des défauts, dans ma formation professionnelle, qui était une bonne formation, ça s'appelait le CFB, mais maintenant il faut passer à autre chose, j'ai appris quand même des techniques documentaires qui étaient réinterprétées, réduites, spécialisée pour les bibliothèques. Mais si on remonte aux techniques documentaires génériques, comme on devrait le faire, à mon sens, en formation professionnelle, on distingue l'information primaire, par exemple un roman, un documentaire, ça c'est l'information qui est directement utile aux gens, et puis l'information secondaire qui est l'information sur information. Le catalogage, c'est de l'information sur information. En langage actuel, on appelle ça métadonnées, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, chaque bibliothèque reste elle-même son information secondaire. Hein ? On faisait ça à la maison. Et donc, comme on l'a créé, eh ben, on l'a proportionné, évidemment, à son fond. C'est-à-dire que, pour les, par exemple, l'établissement des codes d'Iware, on était plus ou moins développé, suivant que le fond était plus ou moins développé, à moins qu'on soit un maniaque de la code à cinq lignes. Et puis, en ce qui concerne, y compris l'indexation matière, etc., la richesse de l'information, on était plus ou moins adapté à son fond. Et puis à son public. Hein. On ne parle pas le même langage suivant les types de public. Donc on avait une notion de proportion, de créer l'information secondaire par rapport à sa propre collection, à la collection qu'on gérait, et par rapport à son public. Je ne dis pas que c'était mauvais, c'était tout à fait bon, ça marchait, hein. C'était un bon système. Ça, c'est le côté HDOF. Alors, évidemment, à partir d'un certain moment, donc nous tous, on est nés bien après que tout ça se soit fait, on a normalisé quand même, parce qu'au début, évidemment, les bibliothèques faisaient chacun, on en faisait chacune qu'à leur tête, réinventaient à chaque fois la roue. Donc, on a inventé la normalisation avec les normes de catalogage. Donc, ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'était à l'époque, la normalisation ? C'était faire soi-même comme les autres. Faire soi-même. Appliquer les normes, c'est les appliquer soi-même. La normalisation consiste à faire soi-même, dans son coin, dans sa cuisine. Hein ? On fait et on utilise les recettes, mais c'est quand même dans sa propre cuisine. Et c'était ça, à l'époque, le sens de la normalisation. Alors, cette normalisation du catalogage reposait sur une confusion entre des éléments qu'à l'époque nous ne distinguions pas, que nous n'apprenions pas à distinguer, et qui, au jour d'aujourd'hui, tels qu'ont avancé les techniques de traitement de l'information, doivent être distingués. Alors, la confusion, c'est entre données, cotage et présentation. Voilà. Tout ça, c'était du pareil au même. Et c'était indissociablement lié. On imaginait que si on perdait l'un, on perdait l'autre. Et voilà, c'est une source des problèmes. Alors vous avez, par exemple, une notice, on appelle ça un pavé ISBD, hein, International Standard Bibliographic Description, et ce truc-là, eh bien, mélange trois éléments différents. Vous avez d'abord les données, évidemment. Rassurez-vous, ça ne va pas rester, on ne va pas faire tour de catalogage. C'est la seule séquence un petit peu technique, mais là, vous avez des données. Par exemple, vous avez une donnée qui est le titre propre, hein, meubles et accessoires des idées à projet réalisées en deux jours. Vous avez une autre donnée qui est l'éditeur, une autre donnée qui est la collection. Ça, ce sont des données. Bien. Et puis, vous avez des codes. Alors, les codes, à l'époque de l'USBD, tapés à la machine, c'était quoi ? C'était de la ponctuation, hein ? On savait qu'un point espace tiré, c'était un changement de zone ISBD. Deux points, bah, c'est selon. Hein. Entre le titre et le complément de titre, bah, ça annonçait le complément de titre. Entre une ville et puis un éditeur, ça, c'était le séparateur, n'est-ce pas, entre le lieu d'édition et l'éditeur, etc., etc. Mais tout ça était extrêmement codé. Ça, c'est simplement une convention. C'est pas les données elles-mêmes. C'est la façon de les présenter, de les annoncer en quelque sorte, ou de les terminer. Ce sont les séparateurs, avant, après, etc. C'est du codage. Et puis vous avez la présentation, on présente ça dans un certain ordre, hein, et vous avez là. Et tout ça est le pavé ISBD. J'ai connu l'époque où, quand est arrivée l'informatique, l'obsession des bibliothécaires, leur demande principale par rapport aux fournisseurs informatiques, c'était « on veut l'affichage du pavé ISBD ». Et c'était dans les réclamations des clubs d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'on voulait retrouver ce qu'on n'avait pas réussi à dissocier. Vous parlez que les gens, ils s'en fichent, hein, personnellement, de savoir si c'est présenté comme ça doit l'être. Ce qu'ils veulent, c'est l'info. Mais on voulait présenter c'est le 3 en 1, en quelque sorte, hein, pour parler comme les lessives ou les... Voilà. Et donc, c'est donc cette confusion entre le codage et les présentations. Bonjour aux derniers arrivés. Alors, nous continuons la séquence nostalgie. Alors, cette séquence nostalgie, elle a une logique très claire. C'est une économie de la rareté. Alors, en principe, vous savez que l'expression économie de la rareté, c'est un pléonasme, c'est un gros pléonasme, parce que l'économie, c'est la rareté. Hein. Dès qu'il y a abondance, il n'y a plus d'économie. Hein. C'est un des problèmes de la société de l'information actuelle, que de retransformer l'abondance en rareté, hein, pour que ce soit fasse objet d'économie. Donc, une économie de la rareté, pourquoi? Parce que on faisait tout à la main, et donc on n'avait pas un temps infini. Et donc on a eu des règles qui ont permis de gérer, dans un contexte de rareté, la création dans chacun des endroits de la formation secondaire. Donc on a une description concise, évidemment, parce que notre petit pavé ISBD, eh ben, c'était l'affiche la 75-125 avec un trou au milieu, ça ne pouvait pas dépasser, hein. Dès qu'on faisait sur deux fiches, ça se faisait avec le... Enfin, c'était un peu... fallait éviter. Donc, une description concise. Si la description est concise, il n'y a pas de libellé, évidemment. C'est pas titre, auteur, etc. On a un ordre, et nous, on s'y retrouvait très bien, parce que comme les informations étaient rangées dans un ordre, elles étaient présentées toujours de la même façon, codées, ça marchait. Mais on était très concis. On avait, évidemment, les abréviations, couvil en coule. Si tant est que ce soit utile de fournir cette information. Bon. De même que les moines copistes du Moyen-Âge avaient leur manuscrit était bourré d'abréviations pour la même raison. Et pour la même raison, les SMS sont bourrés d'abréviations. Et que voilà pourquoi la technologie la plus récente retrouve les pratiques des moines copistes. Bien. Donc, concision de la description, on est d'accord. Évidemment, limitation des accès, pourquoi? Parce que les accès, c'était un nombre de fichiers. Vous aviez fichier auteur, fichier matière, fichier titre. Si vous vous amusiez à dire, voilà, un ouvrage collectif, une anthologie à 15 titres, je fais 15 fiches. D'abord, vous devenez fou parce qu'il faut faire 15 fiches. C'est un temps infini. Et puis, vous allez multiplier votre nombre de tiroirs. Et la salle des catalogues va être plus importante que la salle en accès libre de collection. Et donc, on limite les accès, évidemment. On les limite, on les domestique, on se fait des règles très précises pour limiter des accès. Tout ça va ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine, dans l'univers de la rareté physique et spatiale, disons. Et puis, avec tout ça, implicitement, parce qu'on ne s'explicite pas les choses, donc comme on ne les explicitait pas, c'était du domaine de l'évidence. Donc de l'évidence... Non, sans recul critique, évidemment, on avait l'idée d'une recherche exacte pour un résultat exact. D'accord? On devait faire exactement, savoir exactement quoi chercher, donc on avait le terme, et puis le résultat, on devait le trouver rapidement. Hein. Et donc, la grande habitude, ceux qui connaissaient par cœur les règles de catalogage et d'indexation, avec les rangées de les tiroirs, les meubles à tiroirs interminables de catalogue sur fiche, ils trouvaient facilement. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une chose qui était très facile et qu'au début de l'informatique, on n'a pas bien trouvé, c'était le côté fouineur, feuilleté, etc. On a tous feuilleté dans les tiroirs, et ça, c'était extraordinaire. Donc, c'était déjà plus la recherche exacte. Hein. C'était la farfouille. Un des défis après de l'informatique documentaire, ça va être de retrouver la farfouille, hein, en ligne. Bon, mais en tout cas... toute la discipline qu'on s'imposait pour créer l'information secondaire reposait sur l'idée qu'on allait faire une recherche exacte pour un résultat exact. Et pour ça, on utilisait bien sûr un langage documentaire. Alors, j'ai oublié de prendre, souvent je prends le vocabulaire de la documentation. Dans la dernière édition, est publiée aux éditions de la DBS, hein, celle d'avant c'était AFNA. Et ils définissent les langages documentaires comme un langage artificiel qui permet d'exprimer la question. Et aussi le langage dans lequel est expliquée l'information secondaire. C'est-à-dire que comme si c'était le même langage, la question et la réponse. Hein. Et en fait, ça marche pas bien. Il n'y a jamais le même langage, la question et les réponses. Comme si... on ne maîtrisait vraiment tout ce système que quand on maîtrisait bien le langage documentaire. Voilà. C'est-à-dire le langage dans lequel était rédigée l'information secondaire. Bien. Alors... cette époque d'âge d'or, que je ne critique pas en soi, car elle avait son efficacité dans son contexte. c'est le mot principal que pour moi, pour la caractériser, d'ailleurs on pourrait en parler autant en politique documentaire, mais ça nous entraînerait trop loin, c'est la maîtrise. On maîtrisait. Et c'est une maîtrise locale. Et qu'est-ce qu'on maîtrisait? Ben, on maîtrisait son fond, hein. On sait ce qu'on avait, puis avec l'idée d'une certaine stabilité. Bien sûr, on a appris qu'il fallait renouveler, désherber, etc. Enfin, on connaît son fond, on le maîtrise, etc. Voilà, on le maîtrise. Et on maîtrise la description du fond. On a son fond et on fait sa description du fond. Et on maîtrise les codes. Très fort pour maîtriser les codes. Mais ça, c'est chaque profession. On aime bien avoir ses propres codes. Ce qui fait qu'une conversation professionnelle est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas de la profession. Donc on maîtrisait bien l'école, la description, les fonds. Et on les maîtrisait localement. Et donc, c'est ce que j'appelle l'âge de l'artisanat. Hein. C'était un véritable artisanat. Alors, je n'ai jamais retrouvé, il faudrait que... Parce que le système de recherche d'un message sur Bibliothèque, la liste de diffusion de bibliothécaires francophones, ce n'est pas très facile. Mais il y a plusieurs années est paru a été envoyé par un catalogueur un message extraordinaire, extrêmement touchant. C'était un éloge de l'art du catalogage qui était presque assimilé à l'ébénisterie. Et je fignole ma notice, etc. Et c'était très touchant, je comprenais parce que je comprends ce plaisir du fignolage, pour le catalogage comme pour d'autres choses. Et c'est vraiment l'artisanat. Je maîtrise localement, c'est l'artisanat. L'entreprise la plus grande de France, dit en se levant de la CGPME, je crois, artisanat. Bon. Et donc, c'est un idéal de la PMB. Je ne fais pas de publicité pour un des logiciels libres de bibliothèque, c'est pas ça. C'est la petite et moyenne bibliothèque au personnel staff. Parce que tout ça ne marche évidemment que si ce n'est pas trop gros et si s'il n'y a pas trop de turnover, évidemment. Et donc, c'est un idéal, voilà. Alors, je ne critique pas du tout, j'ai même travaillé dans ce contexte hein, professionnel, c'est très bien, mais c'est très adapté à ce type-là. Voilà. Et donc, ça représente un idéal, presque un idéal de politique professionnelle. Vous savez qu'un peu les Jacobins à la Révolution, un peu leur idée un peu de la société, c'était la société de petits artisans, petits boutiquiers, c'était ça, cet idéal démocratique. Si on voit les États-Unis... Le grand idéologue de la Révolution américaine, c'est Thomas Jefferson, c'était ça son idéal. Il y avait un méchant à côté qui était Alexander Hamilton, qui était le premier secrétaire d'État au Trésor, qui n'était pas très sympathique, qui est mort en duel avec un rival, mais qui lui avait l'idée de l'Amérique qui allait être industrielle, etc. Mais c'est lui qui avait raison sur le fond. Voilà. Donc attention à ce qui paraît trop sympathique, finalement, et humain, parce qu'on peut retrouver l'humanité ailleurs. Donc, cet idéal, il a été très fort, il est tellement fort qu'à mon sens, il hante toujours l'imaginaire professionnel. Et sa logique. Alors, nous avons une transition que j'ai appelée un bis. C'est qu'à partir d'un certain moment, donc j'ai la chance d'avoir connu cette époque, ça a été les années 80 pour la France, hein, c'est les débuts de l'informatisation des bibliothèques. Le tout début, c'est les années 70, avec les cartes perforées, on informatisait le prêt, etc. Bon. Mais après, on a eu les débuts de l'informatisation. Et alors, qu'est-ce que ça a changé, l'informatisation, pour cette affaire de catalogage? Réponse, rien. Absolument rien. Voilà. Et donc, on a continué à faire exactement la même chose, avec exactement la même logique. D'ailleurs, j'ai tort, parce que sur clavier, c'était déjà la machine à écrire. Non, mon truc, c'est pas sur clavier, il y avait déjà le clavier en plus. Hein. Ça avait déjà tapé la machine. Hein.
C'est sur écran.
C'est sur écran. Avec écran. Comment? Attendez, vous anticipez. Mais c'est une très bonne remarque. Mais je parle des débuts de l'informatisation. C'est commencé comme ça. Donc, ce que proposaient les logiciels... les premiers qui se sont proposés en France aux bibliothèques publiques, par exemple, c'est un système de catalogage qui était le même, et il y en a même un, on tapait directement du pavé ISBD, hein. Directement, lui, hein. Voilà. Alors, sont arrivés, et voilà,
l'étape,
les formats d'échange. Parce que la première informatisation, attention, hein, c'était sans notion de format, de normalisation de format. Chaque logiciel avait son format, si on voulait, hein, c'était pas compatible. D'accord ? Bon, en France, je fais une histoire française. Parce que la France a eu quelques retards.
Bien sûr, là-dessus. Alors, les formats d'échange, on espère, c'est plutôt mondial. Voilà. Bon, parce que, évidemment, en France, en tout cas, notamment en France, plus particulièrement en France, la France faisant partie des pays, plus particulièrement, le catalogage n'est absolument pas mort, alors qu'il y avait les conditions théoriques pour. Et c'est bien sûr les formats d'échange qui devaient permettre. Alors, format d'échange, donc vous avez eu le catalogage partagé à grande échelle, c'est énorme cette histoire de CNC, Françoise Bourdon pourrait en parler beaucoup mieux que moi, elle peut donner des précisions, des chiffres, etc., mais c'est tellement bourré de millions, etc. Bon, c'est un énorme entreprise de catalogage partagé, donc il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs en France, hein, donc certains parmi vous ont sans doute participé à des opérations de catalogage partagé. C'était le catalogue collectif de production, hein, parce qu'il y a des catalogues collectifs qui sont uniquement pour la présentation, on a catalogué chacun dans son coin, où on a dérivé d'une source, et puis c'est un catalogage qui décrit des localisations diverses. Mais là, c'était travailler ensemble, la coproduction, hein, et ça continue. Et c'est quelque chose d'énorme, et c'est permis par les formats. Et puis il y a l'autre solution, qui est pour, avec les formats d'échange, c'est le non-catalogage par récupération. Voilà. Donc ça, c'était les deux principes qui permettaient, je dirais, l'extinction de l'artisanat local. Au profit de l'industrie. Hein, disons les choses comme elles sont. Pour faire des comparaisons dans la vie économique. C'est une économie, le catalogage. C'est des coûts aussi. Alors, évidemment, ça repose sur la notion de formalisation. Les formats d'échange, c'était une formalisation des données catalographiques pour l'informatique. Il y avait déjà une formalisation des données catalographiques, mais on a pensé que cette formalisation ne suffisait pas, qu'il fallait en quelque sorte la raffiner pour qu'elle soit traitable par informatique. Et c'est comme ça qu'a été inventé les formats MARC, n'est-ce pas, dont c'est la définition exacte de l'acronyme. Catalogage lisible par une machine. Et donc ça, c'est pas nouveau parce que ça date des années 60, c'est-à-dire c'est contemporain de la grande époque des Beatles. C'est facile les Beatles parce qu'ils sont séparés assez vite, c'est comme Van Gogh qui est mort à 33 ans, etc. Donc ça marque une époque, ça date de ça. Personnellement, j'ai passé mon CFB 12 ans, 13 ans après cette année-là, et j'en ai pas entendu parler pendant mon CFB. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour que certaines nouvelles traversent l'Atlantique. Donc ça explique aussi un certain... C'est assez hallucinant quand même. J'ai pas entendu parler. Et j'avais une excellente formation avec des... Mais zéro là-dessus. Je rends compte, François. Évidemment, là. C'est hallucinant. Bon, donc ça, c'est une vieille affaire. Hein. C'est une vieille affaire et qui vient de la Library of Congress. Bon. Honneur à elle pour cette contribution. Et pourtant... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même un mystère. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Il y a un truc. Il y a comme un défaut, comme disait Fernand Reynaud, qui en sévissait encore à l'époque. Alors, il y a une situation compliquée. On est quand même... Parce que c'est lié à l'histoire nationale. Donc, et donc, l'histoire nationale, c'est aussi la politique nationale. Enfin, la façon dont on gère les affaires publiques, etc. La relation entre l'État et la société civile. La France est quand même un pays où le format d'échange entre bibliothèques est publié par décret ministériel. Je ne sais pas s'il y a un seul autre exemple dans le monde. C'est hallucinant. Il y a un décret ministériel qui dit que le format d'échange est une marque. Bon. Et en fait, il y a eu une intervention importante de l'État. Mais il faut savoir que l'État, dites-vous ça, c'est pas seulement valable en catalogage, c'est dans des tas de domaines. L'État décide encore beaucoup de choses. Je ne veux pas faire de l'anti-étatisme a priori, mais il faut voir les spécificités. Il décide Il peut décider beaucoup de choses, mais l'État n'est pas unique. L'État est une compilation de secteurs, de services qui ont leur propre logique. Sinon, on ne comprend pas l'État français si on ne comprend pas cette espèce de cloisonnement. Et donc, dans notre domaine, c'était un cas, on met la loupe là et on voit, l'État décide plusieurs choses à la fois concernant la formalisation des données bibliographiques. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, en France, on est le seul pays à avoir deux formats nationaux qui se croient internationaux. Parce que inter, ça veut dire international, et uni, ça veut dire universel. C'est tout à fait particulier. Donc l'un avait été au départ, je crois, un projet entre plusieurs bibliothèques nationales et finalement, européennes. Et il n'y a plus que la BNF, enfin la BN à l'époque, qui a eu, donc c'est le format BN. Et puis l'autre est le format que l'IFLA, c'est vrai, a voulu promouvoir et qui était fait pour les échanges internationaux. Et que quelques pays ont adopté comme format national, que sont le Portugal, la Slovénie, une partie de la Fédération de Russie et la France, enfin, voilà, quelques-uns comme ça. Sachant qu'évidemment, est-ce que vous pensez que la langue internationale, c'est l'espéranto?
Non.
Et après vous, quel est le format international d'échange, massivement? Évidemment, c'est le format qui est aujourd'hui unifié anglo-saxon, qui était à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est le monde où on est. Nos questions professionnelles ne sont pas séparées du grand contexte géopolitique. Voilà. Donc on a décidé, une décision contradictoire, pas dans le bain du contexte vraiment international. Et donc avec ça, on complique, si on complique cette affaire-là, on complique les échanges de données. Hein. On complique sacrément les échanges de données. Voilà. Alors, mais ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Et il faut savoir que... Et puis, il y a eu l'anticipation de l'État. Alors ça, c'est des fois l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'État a pris... c'est le ministère de la Culture, à l'époque, a pris deux initiatives qui étaient vraiment anticipatrices, et c'était trop tôt. Puis quand les choses sont vraiment trop tôt, ça ne marche pas. Alors, c'était Libra et le SBN. Libra, c'était... Alors la première, moi je mets des bémols. La deuxième, c'était vraiment anticipateur, à mon avis la première c'est une erreur d'analyse, c'est-à-dire c'était de dire on va faire un logiciel de gestion de bibliothèque nationale, et puis finalement on va le refiler à une société privée qui va le, etc. Et puis pour faire avancer l'informatisation des bibliothèques et l'informatisation de la création d'informations bibliographiques. Et donc Libra, c'est le premier qui s'est créé sur Unimark. C'est lui qui a lancé Unimark un peu en France. Et c'est le ministère de la Culture dans les années 80. Avec l'idée, on va aider, pour que ça marche bien, on va utiliser nos bibliothèques à nous, publiques, pour les mettre dans ce système-là en leur faisant faire du catalogage collectif. Et c'était les bibliothèques centrales de prêt. Ce qui est bizarre, c'était en même temps que ceci a été décidé la décentralisation, et donc la dévolution des bibliothèques centrales de prêt au département. Donc il y a un effet de ciseau complet. Évidemment, donc ça s'est terminé en capilotade. Et puis l'idée d'un logiciel national, je pense, n'est pas vraiment bonne, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, bref, mais Libra a joué un rôle considérable, qu'on peut dire positif, pour implanter les formats d'échange et l'idée de catalogage collectif. C'était tellement en avance que ceux qui ont connu cette époque, moi je n'ai pas connu, avaient un système de messagerie, y compris personnel, donc on faisait comme du mail, hein, donc on s'échangeait des mails par Libra, etc. Vous voyez, il y a ce côté en avance, voilà. Mais évidemment, ce logiciel n'existe plus, mais il a implanté assez durablement Unimark en France. Et puis le serveur bibliographique national, c'était un peu après, c'est de dire, on va avoir un système de dérivation en ligne des notices. Et à l'époque, ce n'était pas mûr du tout. Et donc, ça a capoté, et ensuite, on a eu le CD-ROM. Maintenant, on revient au système en ligne, hein, mais c'était trop tôt. C'était une idée trop en avance. Donc, finalement... se sont stabilisés avec cette histoire-là deux univers qui fonctionnent tout à fait différemment. Dans les bibliothèques universitaires, vous aviez trois réseaux, en gros, de catalogage collectif. Là, on est bien implanté dans le catalogage collectif. Et puis finalement, il y a une décision étatiste de dire plus qu'un seul, et c'est le SUDOC, le système national de catalogage collectif. Ça, c'est le système BU, tout seul. Et puis pour les bibliothèques publiques, en gros, c'est le domaine de la récupération. Voilà. Et puis, c'est la pluralité. Les fournisseurs divers. Donc, vous avez un système assez éclaté avec deux logiques différentes. le catalogage partagé en bibliothèque universitaire et en bibliothèque publique, la récupération. Je pense que le catalogage partagé, on peut en parler, c'est trop tard. C'est pas grave, c'est une méthode, est-ce que c'est plus efficace partagé que récupération. On va pas mettre de la philosophie ou des valeurs là-dedans. Bon, finalement, ce qui fonctionne en gros en bibliothèque publique, c'est la récupération. Global. Alors, pourquoi la situation est compliquée aussi? Ah oui, parce que la situation est diverse suivant les supports. Alors, pour les notices de livres, ben, vous avez BNF, Elect, et puis Zebris, et il pourrait y en avoir d'autres. Et donc, une pluralité de fournisseurs. C'est pas grave en soi, hein. Mais enfin, vous avez une pluralité. Alors, la perfection avec retard, on peut plus le dire, Françoise. Bon, là, eux, ils ont fait leur... leur point fort, c'était le résumé élément de commande. C'est-à-dire des succès d'année de... Bon, de commande, c'est le succès d'année de... Comment dirais-je? De modules d'acquisition qui marchent jamais bien dans les CGB. Et puis, voilà. Bon. Et Zebris, ben, je laisse... Je laisse Christian Ducharme en parler cet après-midi. Et puis, les documents sonores, c'est là la bouteille à l'encre. Vous avez la BNF, on a eu des aventures de format assez croquignolettes. Vous avez des fournisseurs divers, et c'est compliqué. Christian est là, il lançait quelque chose hein, pour mettre d'accord les collègues sur où est-ce qu'on va mettre les dépouillements dans telle zone, telle autre, etc. C'est très difficile, et on a une grande pluralité. Donc ce paysage n'est pas stable, même dans la façon dont il faut décrire les mêmes choses. Alors, il y avait un Unimark adapté. Maintenant, il n'y a plus de dépouillement à la BNF. Hein. C'est d'ailleurs... Ça va peut-être revenir. Parce que ça, c'est... Ouh. Comment? Oui, mais... la BNF est obligée de fournir la notice en Unimark. Donc, elle a toujours converti en Unimark ses notices. Hein, a toujours converti ses notices en Unimark pour le marché des bibliothèques publiques. Hein. Bon. Et donc, pour les livres, ça posait pas de problème, et pour les disques, il y a eu, à un moment donné, une adaptation particulière concernant les dépouillements. C'est-à-dire les titres des morceaux, des chansons, etc. Voilà. Alors, quels sont les obstacles à la mort du catalogage dans le contexte des formats d'échange? Alors, la première chose, c'est la culture du format de catalogue. Le décret qui institue l'Unimark comme format d'échange, l'institue comme format d'échange. Point. C'est que de la combine technique, ça, c'est dans quel format vous allez échanger des notices, c'est tout. C'est un truc, on pourrait ne jamais le voir, ça, c'est tout, c'est format d'échange. On dit c'est format d'échange. Mais ce qui s'est passé, et du coup Libra a trempé à plein dans cette affaire-là, c'est qu'on a assimilé format d'échange et format de catalogage. C'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir des bordereaux de catalogage avec tous les étiquettes de zone, les indicateurs, les séparateurs, les dollars, etc. Et dans une France qui est, comme dirait Tony Blair, absurdement anti-américaine, peut-être une profession qui est peut-être encore plus que la moyenne de la population française, on s'est mis à se vautrer dans les dollars. Hein, avec des listes. Et on s'est dit, le vrai catalogage sérieux, c'est celui qui est dans le vrai format, hein, correspondant au gros livre rouge, là, enfin, le petit livre, gros livre rouge, Unimark, et voilà, et je dois, pour que ce soit sérieux, il faut que je saisisse là-dedans. J'ai vu, moi, parce que dans les BCPistes, on a connu l'arrivée des qu'on appelle les petits logiciels, logiciels pour petites bibliothèques. Des gars qui étaient assez doués, qui avaient une petite entreprise, etc., qui disaient, on va faire un logiciel pour petite bibliothèque, et on est, ça se rendre compte qu'il fallait qu'ils assimilent le livre rouge. À la douleur. Et puis c'était tellement dérogatoire à leurs habitudes informatiques, parce que c'est un truc qui date des années 60 quand même, au niveau conception, etc. C'est vraiment pas du tout ce trait des informaticiens d'habitude. La douleur et la difficulté. Donc, on s'est dit, le vrai catalogage, c'est le catalogage en format d'échange. Et donc, on a compliqué le catalogage. Et pour moi, il n'y a pas de mystère. Entre taper une notice ISBD et taper une notice Unimark, c'est plus long de taper la notice Unimark, évidemment. Et donc, on a accru le temps passé au catalogue. Et on l'a accru sur... Attendez, je regarde ce que j'ai après ma diapo que je l'ai. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Parce que ça, c'est l'humoriste Gustave Parking, qui est voisin de mon... qui raconte ça. On a accru... Voilà, c'est ça. Non. Alors, on l'a accru en faisant une confusion grave, une confusion technique grave. On a l'idée que ce qu'on saisit, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est dans la machine. C'est ça qu'on a en entrée, c'est ça qu'on a en sortie, et c'est ça qu'on a quand on saisit. On a l'idée, en gros, de l'identité, du format d'échange, d'importation, du format de catalogage, du format d'exportation, de sortie. Et on croit que ça, c'est le format de stockage, ce qu'il y a dans la machine. D'accord ? On croit que tout ça, c'est la même chose. L'exportation, c'est aussi bien fournir une notice à une autre bibliothèque, ce que font les BDP, hein. Mais ça marche bien, hein, pour qu'un autre logiciel, pas le même, on parle de l'espéranto, là, des notices, et puis hop, ça marche. Ça, c'est un format d'export, mais ce qui est affiché, c'est un export aussi, hein. C'est le système qui extrait des données qu'il a stockées pour vous faire une apparence sur l'écran. C'est de l'export. Et on a l'idée de l'identité de tout ça. Mais c'est pas vrai du tout. Parce que vous pensez bien que le format de stockage, là, que ce qui est les données telles qu'elles sont vraiment traitées, ça dépend du système de gestion de base de données, de votre logiciel, de votre SIGB, comme on dit, favori. Vous ne savez pas, vous n'avez pas accès à ça. C'est vraiment la tambouille hyper technique. Les données, elles sont pas comme ça. Elles sont pas avec les dollars et tout ça. Elles sont dispatchées autrement, etc. C'est donc une formalisation conventionnelle, Marc. C'est pas une formalisation technique. C'est ça, l'erreur. Et donc, c'est aussi conventionnel que l'ISBD. Et donc, il n'y a pas de raison, a priori, de tenir à cataloguer comment on va exporter, comment on va importer. On a des bordereaux de saisie avec les libellés en clair, ben c'est tout aussi bien, c'est pareil. C'est pareil. Le dollar n'est pas... Voilà. Que la bibliothèque qui établisse la bibliographie nationale doit maîtriser absolument tout, etc. D'accord, mais la moindre bibliothèque en France, et dans le moindre, je ne mets pas une notion de hiérarchie, hein, est d'importance, je suis bien placé en tant que BDP. Eh bien, on s'en fiche complètement. Et donc, on a pris ce format, qui n'est pas un format informatique, mais qui est une formalisation pour que les informaticiens en fassent quelque chose. On a pris cette formalisation pour le vrai langage de la machine et pour ce qu'il fallait absolument maîtriser. Hein, voilà. Mais voilà. Mais c'est une confusion technique qui est peut-être liée à... l'insuffisance de la culture technique, si on veut, la profession, ou disons, la confusion entre les techniques bibliothéconomiques et techniques informatiques, si on veut. Hein. C'est un peu ça. Donc c'est autre chose. Mais il y a des gens qui pourront en parler plus savamment dans cette salle, je sais, que moi. Donc, on s'est trop vautré dans l'exhaustivité du format, avec tous ces deux-là. Et donc, comme on aimait taper soi-même la notice ISBD, on a aimé saisir nous-mêmes nos notices Unimark. Avec un vice dans la technicité, hein, et le 200 de la REF et de l'ARGE, etc., et le 327 de la RIN, et tout ça, et l'indicateur machin, etc. Après, moi, je me suis retrouvé avec des questions, comme m'occupant un peu d'informatique. Alors, comment je fais? Quel indicateur faut que je mette, etc., pour que ce soit indexé? Je répondais, mais écoutez, l'indexation, ça dépend de votre SIGB. C'est pas Unimark qui indexe. Indexer, c'est recopier des données dans certains champs pour en faire des accès plus rapides. Mais ça, c'est votre SIGB, c'est pas une marque en soi. Ça dépend. Ça dépend. C'est un peu de la fétichisation du format qui s'est passé dans la culture technique professionnelle. Hein. Voilà. Et en plus, faire soi-même comme les autres. Donc vous connaissez la normalisation, c'est faire soi-même comme les autres. Et donc on est passé de l'artisanat à l'artisanat d'art, bien sûr. Et là, on est passé donc de la menuiserie à la bédisterie, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est quand même plus élevé que de torcher une notice Unimark, de torcher une notice ISBD quand même. Hein. Il y a un petit peu plus de subtilité. Voilà. Alors là, ça c'est quelque chose. L'affaire des autorités. C'est peut-être dans la culture politique française, hein, les autorités c'est quelque chose. C'est curieux que ça s'appelle comme ça. En anglais aussi, ça s'appelle comme ça, authority. Non, feeding. Non, authority. Non, t'as feeding, c'est la vedette. Oui, il y a la vedette et l'autorité. On est passé de la vedette à l'autorité. Moi, j'ai appris le catalogage avec les vedettes. Hein. C'était l'époque de la marine ou du cinéma, je sais pas. Mais voilà, les vedettes. Et tout d'un coup, c'est devenu des autorités. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors, les autorités, c'est une affaire de maîtrise. Je vous ai parlé de la maîtrise tout à l'heure. Vous savez, il y a un slogan dans les bouquins de développement personnel. Actuellement, je ne fais pas mes chouvrages, je suis souvent assez ironique pour ça, mais des fois, il y a des trucs pas mal. Il y a un slogan qu'on peut trouver qui est « lâcher prise ». Je recommande, dans la période actuelle, de lâcher prise, de ne pas vouloir maîtriser tout. Hein? Parce que dans un contexte de globalisation, ce n'est pas vrai, on ne maîtrise pas tout. Donc vouloir maîtriser tout, c'est vivre sur la continuation d'un pouvoir imaginaire. Alors, les autorités, c'est une affaire de maîtrise. De maîtrise de quoi? Des accès. Ça paraît bien de maîtriser les accès. C'est-à-dire une entrée et une seule pour un concept. Et hop, je maîtrise. Toutes les variantes, tout ça va être la même forme. Et puis, c'est l'entrée unique par ici. Et puis, avec ça, vous arrivez, etc. Mais les autorités, on a inventé un catalogage supplémentaire. Non seulement on avait l'information secondaire, mais nous voilà avec de l'information tertiaire. C'est pas tout à fait ça, l'information tertiaire, mais enfin, bref. De l'information sur l'information secondaire, et donc un deuxième catalogue. Alors là, non seulement vous avez augmenté le temps de catalogage, mais là, vous arrivez à le tripler, hein, allègrement. Alors, pourquoi c'est un problème les autorités? Si vous faites de l'artisanat, de l'ébénisterie uniquement locale, sans rien sous-traiter, sans acheter de produits finis, en faisant tout presque, en coupant vous-même vos arbres, etc., vous n'allez jamais être pollué, hein, pas de problème. Donc vous maîtrisez tout, c'est formidable, vous maîtrisez tout. Vous êtes en isolat, en autarcie bibliographique. Mais dès que vous n'êtes plus en autarcie bibliographique, ce que je recommande, chaque fois que vous importez une notice, bien évidemment, elle vous refabrique une autorité, etc. Et les autorités, c'est une machine à polluer les bases. Ou à fabriquer de l'autarcie. Lors d'une journée de la